Donc, on avait parlé de la, du rapport de dérivation, Gramsci parle de dérivation, entre le roman populaire français et le roman de Dostoïevski, parce que Dostoïevski était un grand lecteur de Gensu, Balzac et compagnie. Et donc Gramsci s'intéresse à la fois à cette continuité et en même temps cette continuité de médium, de préoccupation, de contenu, et en même temps discontinuité qualitative, puisque Dostoïevski est arrivé à un accomplissement beaucoup plus satisfaisant pour l'esthète que Gensu. Et alors maintenant, je voulais passer à un nouveau plan de la lecture de Gramsci. Donc Gramsci va passer de l'analyse de ce rapport de dérivation à un rapport de plus de rupture, mais cette fois-ci, il ne se préoccupe plus de l'esthétique, mais de questions morales. Donc pour lui, il n'y a pas seulement dérivation, il y a un dépassement chez Dostoïevski d'une certaine ambiguïté du mythe, notamment du surhomme, que Gramsci retrouve comme leitmotiv dans la littérature populaire française. Alors, je voulais m'arrêter un peu plus longuement sur le surhomme, le superuomo, parce que j'avais été un peu vague la dernière fois, et Gramsci est assez subtil sur la qualification de ce surhomme. Donc, il s'agit d'une figure populaire, de la littérature populaire, d'origine romantique, et qu'il juge moralement équivoque, mais il lui donne, il y a ce mythe, ce motif du surhomme, à plusieurs sources. Il y a une source littéraire et une autre plus philosophique. Alors pour les distinguer, ces différentes origines, je vous propose d'aller au premier texte de l'exemplier, du cahier 14, paragraphe 4, sur les origini popolaresche del superuomo. Donc là, il s'intéresse à l'origine nietzschéenne d'une certaine version du surhomme. Ogni volta che ci si imbatte in qualche ammiratore del Nietzsche, è opportuno ricercare se le sue concezioni superumane, contro la morale convenzionale, sono di genuina origine nietzschiana, sono cioè il prodotto di una elaborazione di pensiero da porsi nella sfera della alta cultura, oppure hanno origini molto più modeste, per esempio, sono connessi alla letteratura d'appendice. E lei si domanda, ma lo stesso Nietzsche non sarà stato per nulla influenzato dai romanzi francesi d'appendice? Occorre ricordare che tale letteratura, oggi degradata alla portineria e al sottoscala, è stata molto diffusa tra gli intellettuali fino al 70, almeno come oggi il romanzo giallo. In ogni modo, pare si possa dire che molta sedicente superumanità nietzschiana, se la idea è importante, ha solo come modello e origine dottrinale il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. In Dumas, per quanto mi consta, il tipo di Montecristo è stato rappresentato più volte. Esso è da vedere, per esempio, nell'Athos dei tre moschettieri in Giuseppe Balsamo, ma forse si potrà trovare anche in altri romanzi. E là, il s'intéresse alla figura il cite come esempio di cette fausse paternità, ce faux héritage nietzschéen, Vincenzo Morello, donc cet intellectuel qui a pris comme pseudonyme Rastignac, donc référence évidente à Balzac, et avec qui Gramsci polémique depuis les écrits politiques, depuis ses campagnes journalistiques, parce que cet intellectuel incarne tout ce qu'il critique dans l'intellectuel italien, ce snobisme, ce dilettantisme, et... Il le critique notamment dans les notes consacrées à la question à la critique dantesque. C'est un de ses interlocuteurs pour discuter sur le champ 10 de l'enfer. Alors, quelques paragraphes plus loin, Gramsci prolonge cette critique du mythe du surhomme. Il la prolonge dans une critique de la conception romantique des avant-gardes culturelles, romantique ou bohémienne dans le sens italien. Donc, il reprend cette critique. Donc, et alors, ce qui est intéressant dans le texte qu'on va lire, toujours du cahier 14, c'est le deuxième texte de l'exemplier, paragraphe 18, c'est que Gramsci revient sur l'idée d'avant-garde. Donc, en fait, derrière cette réflexion sur le surhomme, il y a une réflexion sur les avant-gardes, sur leur légitimité et leur rôle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend, le sens originel de l'idée d'avant-garde, parce que le mot avant-garde est une métaphore militaire et qui a été un peu dévitalisée par un usage abusif, qui fait qu'on a une conception aujourd'hui et diffuse une conception individualiste de l'avant-garde, alors que pour lui, c'est le retour au contexte militaire de définition de l'avant-garde oblige à rappeler qu'une avant-garde est normalement liée à ce qu'il appelle des blocchi sociali omogenei e compatti, donc en l'occurrence l'armée, et dans le sens métaphorique, la société ou le parti, qui esprimono nel gruppo di intellettuali di arditi un'avanguardia loro propria che reagiscono nel loro blocco per svilupparlo. Donc le paragraphe en question, c'est celui, donc un paragraphe intitulé Machiavelli, volontarismo garibaldinismo. Occorre distinguere. Altro è il volontarismo o garibaldinismo che teorizza se stesso come forma organica di attività storico-politica e si esalta con frasi che non sono altro che una trasposizione del linguaggio del superuomo individuo a un insieme di superuomini, esaltazione delle minoranze attive come tali. Altro è il volontarismo o garibaldinismo concepito come momento iniziale di un periodo organico da preparare e sviluppare, in cui la partecipazione della collettività organica, come blocco sociale, avvenga in modo completo. Le avanguardie senza esercito di rincalzo, gli arditi, senza fanteria e artiglieria, sono anch'esse trasposizioni del linguaggio dell'eroismo retorico. Donc on voit là quelles sont les préoccupations que Gramsci a à l'esprit lorsqu'il s'intéresse au mythe du surhomme. Non così le avanguardie e gli arditi come funzioni specializzate di organismi complessi e regolari. Così è della concezione delle élites, di intellettuali senza massa. Ma non degli intellettuali, donc là c'est le sens métaphorique, ma non degli intellettuali che si sentono legati organicamente a una massa nazionale e popolare. In realtà si lotta contro queste degenerazioni di falsi eroismi e di pseudo-aristocrazie stimolando la formazione di blocchi sociali omogenei e compatti che esprimono un gruppo di intellettuali, di arditi, un'avanguardia loro propria che reagiscono nel loro blocco per svilupparlo e non solo per perpetuare il loro dominio zingaresco. La bohème parigina del romanticismo è stata anch'essa alle origini intellettuali di molti modi di pensare odierni che pure pare deridano quei bohémiens. Donc là, on voit qu'il a un rapport critique à cette culture, à cette origine française d'une culture des avant-gardes, et que l'avant-garde telle qu'il la conçoit positivement, elle n'a rien de commun avec cette culture-là. Toutefois, et c'est là que je veux être plus précise que je l'ai été la semaine dernière, la culture romanesque française n'est pas responsable, d'après Gramsci, des implications racistes du mythe du surhomme. Parce qu'il y a pour lui une version tendanciellement raciste, mais ce n'est pas aux intellectuels français, ou en tout cas aux écrivains romanciers français, qu'il la reproche. Donc cela apparaît dans le troisième texte de l'exemplier, du cahier 16, paragraphe 13, où il distingue le superuomo, de Nietzsche et celui du roman français. Per il superuomo del Nietzsche, oltre all'influsso romantico francese e in generale del culto di Napoleone, sono da vedere le tendenze razziste che hanno culminato nel Gobineau e quindi nel Chamberlain e nel pangermanismo, Treitschke, la teoria della potenza, eccetera. Ma forse il superuomo popolaresco dumasiano è da ritenersi proprio una reazione democratica alla concezione d'origine feudale del razzismo da unire all'esaltazione del gallicismo fatta nei romanzi di Eugène Sue. Donc s'il y a une théorie du surhomme face à laquelle Gramsci est assez sceptique, on va le voir après, il demeure que cette conception du surhomme est comparée à un certain nietzschéisme, est une réaction pour Gramsci démocratique. Bon, c'est c'est un peu confus parce qu'on a un peu l'impression que parfois Gramsci se contredit un peu sur cette question. Mais je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que le roman populaire à la Dumas ou à la Eugène Sue est une source distincte du surhomme nietzschéen. Et donc, ces deux traditions différentes qui sont confondues par certains intellectuels qui préfèrent cacher, donner une origine noble à leurs idéologies. Donc, une origine philosophique comme la pensée de Nietzsche. Mais en réalité, pour Gramsci, c'est deux choses distinctes. Même si, et ça on va le voir aussi, il n'est pas impossible pour Nietzsche que, pour Gramsci, que Nietzsche ait aussi été influencé par la littérature française, mais par l'intermédiaire de Dostoïevski. Donc ça nous ramène à Dostoïevski. J'ai été un peu longue sur le surhomme, mais comme vous voyez, c'est une question un peu complexe. Et donc Gramsci ne pense pas que les personnages de Dumas, de Eugène Sue, de Balzac, de Stendhal sont ses principaux romanciers, les principaux romanciers français cités pour illustrer le mythe du surhomme. Voilà, ne pense pas que ces personnages conduisent à une idéologie raciste. Toutefois, leurs figures nourrissent d'équivoques doctrine de la forza et del superuomo. Et donc c'est là qu'on peut entrevoir une distance de la part de Gramsci vis-à-vis de ces figures. Gramsci distingue donc leurs idées à ces romanciers français de celles de Nietzsche. Et pour développer, il revient sur l'inspiration française de Dostoïevski. Donc Gramsci détermine entre les romans feuilletons français et l'écrivain russe, comme on l'a dit, un rapport de dérivation, de continuité, mais encore de réaction, donc de rupture. C'est le quatrième texte que je vous ai mis sur l'exemplier, du cahier 14, paragraphe 27. Donc c'est un texte d'octobre 31. Gramsci voit dans Crime et Châtiment une dérivazione du romanzo d'appendice francese, mais une reazione panslavista cristiana a queste dottrine della forza e del superuomo. Donc vous voyez tout cet enchaînement, il y a une généalogie assez longue entre le superuomo de Dumas, qui est une réaction démocratique à une conception féodale du surhomme, et à son tour, Dostoïevski incarne dans ses romans une réaction au roman populaire français. Donc, la distance est évidente. Et elle l'est encore plus dans un texte successif. Donc, dans la version C du texte que je viens de vous lire, celle du cahier 16, paragraphe 13, que je vous ai mis c'est le cinquième texte de l'exemplier, Gramsci ajoute que Raskolnikov est Monte Cristo criticato, et criticato entre guillemets, donc bien souligné, d'un panslavista cristiano. Gramsci interprète le personnage de Dostoïevski, Raskolnikov, le héros de Crime et Châtiment, il l'interprète comme une reprise critique de la figure du surhomme, chez Dumas, donc avec le héros le comte de Monte Cristo. Alors, il y a sûrement là l'influence ce changement, cette accentuation du rapport de la distance entre Dostoïevski entre Dostoïevski et Dumas, entre la culture russe et la culture française. Elle est encouragée par les lectures de Gramsci en prison. Donc il est influencé notamment par les travaux de Ettore Logatto, qui est un historien de la littérature russe, qui n'est pas indispensable pour vous de le connaître. Et selon cet historien de la littérature, le héros de Crime et Châtiment, donc Raskolnikov, incarne la théorie du surhomme telle que la formulera plus tard Nietzsche. Parce que, à la différence des héros de la littérature française, la psychologie des héros dostoïevskiens, en particulier Raskolnikov, c'est une psychologie qui met en tension cette idéalisation du surhomme, ce mythe du surhomme dans lequel se projette Raskolnikov, ou même le héros de, des carnets du sous-sol, ou La voce souterranea, qui est un des romans de Dostoevsky que Gramsci lit, en tout cas, dans ses bibliographies. Cette tentation de nier la morale commune, d'adhérer à une morale antisociale, elle est à chaque fois contrebalancée par les propres limites, par les limites de ces personnages. Donc le surhomme devient aussitôt un anti-héros, et donc le mythe du surhomme est instantanément critiqué par le développement romanesque chez Dostoïevski. Donc c'est en ce sens qu'on peut dire qu'il y a chez Dostoïevski, mais là je développe, Gramsci ne développe pas, il reste très allusif, je développe à partir de Logato. Donc Gramsci trouve en Dostoïevski une critique de la doctrine du surhomme, comprise comme une affirmation abstraite de l'arbitre individuel au mépris de la société. Et ainsi, l'interprétation allusive de Raskolnikov comme critique de Monte Cristo affirme d'une part un rapport de dérivation entre Dostoïevski et le roman feuilleton français, d'autre part l'idée d'un recul critique du roman russe à l'égard du mythe français du surhomme. Une critique, dit en passant, qui a inspiré Nietzsche, qui était un lecteur de Dostoïevski. On a un bon exemple là avec cette médiation, l'analyse de ces médiations littéraires, de l'approche comparatiste que Gramsci adopte avec la littérature. Donc une approche qui tend à comparer des littératures nationales pour en voir les mérites respectifs. Donc je ne sais pas si ça a été clair, mais pour récapituler, il y a donc un rapport qui va du roman feuilleton français à Dostoïevski à Nietzsche, et les conceptions morales, enfin éthiques qui sont exprimées dans ces différents corpus littéraires sont absolument distinctes, sont absolument incommensurables. Donc, en confrontant ainsi la tradition romanesque française et la tradition russe, Gramsci insiste sur le potentiel critique de la traduction, conçu comme une connaissance réciproque des cultures nationales. Parce que Dostoïevski est un traducteur du roman feuilleton français, mais il le dépasse en un sens national populaire, grâce à l'esprit de la littérature russe, qui est dans cette période plus progressiste, en tout cas plus féconde selon la conception de Gramsci. Et donc voilà la place de choix que Gramsci accorde à la littérature russe. Et donc on pourrait s'arrêter là. Je voulais juste pour conclure un peu, ce sera une conclusion un peu longue, mais m'attarder sur un dernier exemple qui est celui de Gorki. Donc un auteur, ça va peut-être vous étonner parce que ce n'est pas un nom qu'on rencontre beaucoup même pas du tout dans les cahiers de prison. Si vous aviez les traductions au programme, là, vous le verriez un peu plus, parce que c'est un des auteurs que Gramsci traduit. Enfin, en tout cas, il traduit une anthologie de textes littéraires russes, de classiques russes, parmi lesquels Gorki. Mais en deux endroits, on trouve une allusion à Gorki. Une dans ses écrits, il y en a plusieurs, mais une significative dans ses écrits, dans leur dîner noir, hein. Et une autre dans une lettre à son fils, et à la fin de sa vie, donc pendant l'été 36. J'ai trouvé intéressant d'analyser l'écart entre ces deux textes consacrés à Gorki. Donc c'est deux jugements qui sont révélateurs des positions et de l'évolution de Gramsci en matière d'esthétique. Et en tout cas, sinon d'une évolution, ils permettent de rendre compte du rapport, de la position de Gramsci par rapport au débat soviétique en cours. Donc ces deux textes, ils correspondent à deux moments de la carrière politique de Gramsci, mais ils correspondent aussi à deux moments de la carrière de Maxime Gorki, parce qu'il y a clairement deux Gorki, celui des années 20, qui est un révolutionnaire antidogmatique, proche de Lénine, mais un peu iconoclaste et hors de toute qui résiste à toute autorité, enfin qui peut être emprisonné dans une idéologie
Il n'est pas orthodoxe.
Il n'est pas orthodoxe, voilà, c'était le mot que je cherchais, merci. Et puis, il y a le Gorki orthodoxe, celui des années 30, qui est devenu l'écrivain officiel de l'ère salinienne.
Il faut dire que...
Comment ?
Il faut dire qu'il valait mieux, peut-être.
Oui, il valait mieux pour lui. Effectivement, oui. Bon, on va le voir. Et donc, commençons par le Gorki hétérodoxe, c'est celui dont Gramsci rencontre, que Gramsci essaie de faire connaître dans leur dîner noir. Il y a beaucoup de recensions qui lui sont consacrées. Et une en particulier est intéressante, celle du 7 janvier 1921. C'est le sixième texte que je vous ai mis, qui est donc publié dans les nouveautés théâtrales, sous le titre Slovotekov. Donc il s'agit d'une recension à une pièce satirique de Gorki réalisée à Saint-Pétersbourg en juin 1920. Une pièce que Gramsci n'a pas pu lire, il ne pratique pas encore le russe, et qu'il recense à l'aide de ce qu'il a lu dans l'Europe Nouvelle, une revue française, où Gramsci a pris connaissance de la pièce. Donc c'est une pièce qui s'appelle, alors j'ai vu le nom russe, mais ça ne vous dira rien, Rabiotiaga Slovotekov. Donc je l'ai vu traduit par moulin à parole ou flot de mots. C'est le nom du personnage principal. Il s'agit d'une satire de la langue de bois de la Troisième Internationale. Donc un texte très satirique, très insolent, mais que Gramsci apprécie et dans lequel il voit un exemple de la vitalité culturelle du nouvel État soviétique, de son ouverture à la critique, à la discussion. Ça illustre l'idée que ce nouvel État admet l'autocritique et n'épargne pas ses chefs dès qu'il se paye de mots. Parce que « Mentre il popolo russo », je cite l'article, « a bisogno di più solide realtà ». Donc Gramsci approuve cette critique parce qu'elle émane de l'intérieur. Alors on va lire le texte parce qu'il est très savoureux. Enfin, Gramsci dit « oui, gustoso », écrit Gramsci. Donc « L'Europe nouvelle ci fa conoscere attraverso alcune citazioni gustose una nuova deliziosa commedia che Massimo Gorki, il grande scrittore rivoluzionario russo, ha scritto e nella quale gli sottopone a una satira spietata i capricci e gli errori di alcuni dei capi sovietisti. La critica di Gorki è tanto più importante in quanto essa proviene da un fedele amico della Repubblica dei Soviet e in quanto non vuole recargli danno, ma indurla a correggersi dei suoi errori e dei suoi difetti. Donc c'est important ça, que le fait que la critique de Gorki soit recevable parce qu'elle émane de quelqu'un qui est partie prenante du mouvement historique. C'est un fedele amico, donc cette fidélité qui autorise l'intellectuel à être en même temps critique et distancé. Il suo eroe, il compagno Slovotekov, è un alto funzionario comunista, incapace di fare altro che pronunciare lunghi e inconcludenti discorsi e ricondurre tutti i problemi ad alcune formule prese a prestito dell'Evangelo della Terza Internazionale, mentre il popolo russo ha bisogno di più solide realtà. On n'a peut-être pas le temps de tout lire, mais... Mais est-ce que quelqu'un veut lire peut-être pour prendre le relais?
Il lavoro, compagni, ecco, per conseguenza, compagni, fermati dunque, per Dio, ci organizzeremmo e mostreremmo, ma che diavolo di strumento abbiamo inventato. Questo diavolo di strumento è semplicemente un orologio a sveglia che interrompe il sogno di Slovotekov. Slovotekov una mazza lavoro come ce ne sono pochi. Con i suoi discorsi, Slovotekov sarebbe capace di far girare una macchina da mulino. Ma se si tratta di muovere il dito mignolo per arrestare, ad esempio, il campanello della sveglia che lo disturba, come gli avviene nella scena che abbiamo riportata, questo Slovotekov non lo farà mai. Il nostro ammazzalavoro è sempre all'opera. Infaticabilmente le frasi scorriano dalle sue labbra come da una fonte. Lo vengono a trovare competizioni e dichiarazioni. Egli pesta, richiama l'ordine, grida e sempre ritornano nei suoi discorsi le stesse parole. Organizzazione, sistema collegiale, centralizzazione. fare frasi sullo sfacello economico, afferma che il pericolo è il parallelismo degli sforzi, parla di energia operaia, di concentrazione delle volontà e così via, senza fine. Sul principio, nella commedia, quelli che gli stanno attorno lo ascoltano, poi a poco, vinti dalla sua fraseologia monotona, prima si siedono, poi si gettano su tutto ciò che è a loro portata e finiscono per sbadigliare e slogarsi le mascelle. Uno raccoglie un filocchio nel suo vicino e si dispone a schiacciarlo. Mastro Bottecoff lo arresta, esige un giudizio collegiale, una lotta organizzata contro i parassiti. In questo momento stesso, il nostro eroe riceve sul cranio un blocco di gesso che le infiltrazioni del piano superiore hanno fatto cadere dal soffitto. Si radunino all'istante i membri del consiglio medico e chirurgico.
Chirurgico,
grida la sua teca. Voglio essere curato collettivamente. Nessun dubbio che questa fine satira dei viti del regime sovietista non abbia avuto l'approvazione dello stesso Lenin. Ad ogni modo, essa è stata rappresentata 6 volte a Pietrogrado e certamente molte volte di più a Mosca.
Satira.
Satira.
Macina.
Alors, les informations que Gramsci donne à la fin, en disant que la comédie a été présentée 6 fois à Pietrogrado, c'est Saint-Pétersbourg.
Ouais.
Et en fait, sont erronés. Enfin, il les tire de l'Europe nouvelle. En réalité, la pièce n'a été représentée que 4 fois et elle a été aussitôt interdite. Donc, Gramsci était peut-être un peu optimiste. Sur initiative de Zinoviev, qui se serait reconnu sous les traits de Slovotekov. C'était apparemment lui la cible de la comédie, de la satire. Ce vaudeville, plutôt qu'une comédie, sera donc rapidement censuré. Et ça, Gramsci ne le saura pas. Quoi qu'il en soit, ses jugements sur cette pièce illustrent son idée de la littérature, censée représenter et ainsi en représentant, en critiquer les contradictions d'un mouvement historique. Alors, comme je vous l'ai dit, et comme vous le savez, les rapports de Gramsci à Gorki se raréfient en prison, ils sont presque inexistants. Alors on peut supposer que c'est par prudence à l'égard de la censure, parce que ce n'est pas un nom... Mais plus probablement, et c'est plus probablement parce que ses goûts et sa conception de la littérature le conduisent à privilégier d'autres auteurs. La seule occurrence, c'est donc en 1929, dans ses traductions, Gramsci consacre, ça s'attarde sur quelques extraits des Estivants, une pièce donc, de Gorki. Mais et donc une explication plus à cette disparition de Gorki peut être l'évolution de l'écrivain, qui est devenu à partir des années 30 l'écrivain officiel du régime. Notamment après son retour de Capri en 1932, il arrive à Moscou triomphalement et il est accueilli comme une figure, une incarnation du génie soviétique, de la littérature soviétique, c'est ça. Et c'est sous son autorité et grâce à son autorité que les autorités soviétiques réussissent à fédérer en août 1934 un premier congrès des écrivains soviétiques où vont être définis les règles, les principes esthétiques et de la littérature du régime. Et c'est lors de cette assemblée que des romanciers européens comme Joyce, Proust, Pirandello sont condamnés au nom du réalisme socialiste. Et c'est là qu'est affirmée aussi l'exigence de mettre en scène des héros positifs et donc exclut toute forme de critique. Donc en admettant ces principes, on voit que Gorki est bien loin du Gorki satiriste que Gramsci célébrait en 1921. Parce que Gramsci, contre cette promotion d'une littérature qui s'assume tendancieuse, c'est la traduction du mot qu'emploie Zhdanov lors de ce congrès, littérature qui exclut l'autocritique et condamne l'héritage littéraire bourgeois, Gramsci promeut, quant à lui, une discipline de lecture tout autre. Donc pour lui, et là je vais parler à partir de ses lettres, donc certaines qu'on a lues la semaine dernière, et je vous en ai mis d'autres extraits dans l'exemplier. Donc pour lui, quelle que soit la substance idéologique d'un roman tel que Guerre et Paix, mais aussi d'œuvres comme celle de Shakespeare, de Goethe ou de Dante, quelle que soit leur substance idéologique, il les défend au nom d'une conception historiciste de ce qu'on pourrait appeler les classiques. C'est une sorte de, pour dire que c'est une défense des classiques qu'il propose. Et donc, plutôt que fonder à neuf une esthétique socialiste, Gramsci juge nécessaire d'affronter l'héritage littéraire traditionnel en refusant de céder à l'adhésion passive autant qu'au rejet doctrinaire. Donc, ce rejet doctrinaire est illustré pour lui par l'attitude de Giulia qui lui exprimait dans une lettre sa répugnance face à l'idéologie d'auteurs tels que Tolstoï. Donc ça, Gramsci lui reproche, il lui dit même que qu'elle a une mentalité de subalterne en étant incapable d'adhérer au moins esthétiquement au roman. Elle montre qu'elle a une mentalité de subalterne. Et Gramsci, donc, au contraire, propose, donc c'est la lettre du 8 août 1933, j'ai mis le texte 7 de l'exemplier, il lui propose de critiquer historiquement, que son attitude est celle de quelqu'un qui non è in grado di criticare storicamente le ideologie, dominandole, spiegandole e giustificandole come una necessità storica del passato. Et voilà, il dit en revanche, elle est mise au contact. Donc cette position de subalterne la conduit à être déterminée à un certain mondo di sentimenti, à s'en sentir attratto, respinto, rimanendo però sempre nella sfera del sentimento e della passione immediata. Ecco perché forse non senti più l'attrazione di un tempo per la musica. A me pare che debba avvenire in noi una catarsi, come dicevano i greci, per cui i sentimenti si rivivono artisticamente come bellezza e non più come passione condivisa e ancora operante. Donc c'est un texte important, puisque, comme vous voyez, un concept clé y est introduit, celui de catharsis. Gramsci nous dit ici que la beauté de l'œuvre aide l'historien de la culture à se soumettre à une exigence d'impartialité pour saisir les contradictions du moment historique exprimé par l'œuvre. Et donc cette beauté aide à ne pas céder à la passion immédiate. Et c'est cette cristallisation esthétique qu'il appelle catharsis. Donc la catharsis, c'est donc un concept d'origine aristotélicienne que vous connaissez, qui renvoie, pour le dire de manière un peu simplifiée, du passage du particulier à l'universel. Mais chez Gramsci, il acquiert un sens plus déterminant. Donc, je ne veux pas m'y attarder trop, mais je vous conseille d'aller lire dans le dictionnaire Gramsciano. Il y a une notice consacrée à ce... Je ne sais pas si vous y avez accès. Il est en ligne, le dictionnaire.
En partie, oui.
En partie. Sinon, je vous enverrai le détail. Mais c'est aussi pour Gramsci la catharsis, le dépassement du rapport déterministe entre structure et superstructure. Donc c'est un concept qui naît dans le cadre de réflexions sur la littérature, ce qu'il est formulé pour la première fois dans les notes sur Dante, sur le chant vice de l'enfer, et qui va ensuite acquérir un rôle déterminant dans la lecture gramscienne de Marx. Donc c'est un concept très représentatif de la démarche gramscienne d'études politiques, qui passent par de réflexions sur l'histoire de la culture pour arriver à des définitions politiques. Donc Gramsci assume sans peine, comme on l'a vu, son enthousiasme esthétique pour certaines œuvres classiques, qu'il distingue de l'intérêt moral. Moral et esthétique restent distincts, mais sont réunis par une approche historiciste et critique de la littérature. Donc encore une fois, on est loin du congrès des écrivains soviétiques. les distances entre cette discipline de lecture des classiques et le réalisme socialiste se mesurent à nouveau et de manière définitive dans une lettre tardive que je vous ai annoncée, celle que Gramsci écrit à son fils Delio pendant l'été 1936. Et c'est dans le cours de cet échange avec son fils, Gramsci propose confronte Gorki et Tolstoï et explique pourquoi Tolstoï a l'avantage sur Gorki. Donc ces réflexions interviennent après une discussion sur le progressisme de Tchekhov. Gramsci répond à son fils qui semblait avoir des remarques sur Tchekhov. Et il répond aussi à une déploration, un regret qu'avait son fils, celui que Delio se plaignait que les revues, en tout cas la revue des pionniers soviétiques, donc c'est une revue pour enfants, parce que les pionniers soviétiques, c'est une organisation pour les enfants entre 9 et 14 ans, donc dans lesquels auxquels participe sûrement Delio. Donc ces pionniers soviétiques qui semblent avoir proposé des articles de culture littéraire ne laissent que très peu de place à Gorki pendant l'été 1936, alors que Gorki est mort le 18 juin et on pourrait s'attendre à ce que des hommages lui soient réservés. Et donc Delio déplore cette absence et trouve qu'au contraire, il n'y en a que pour Tolstoï. Gramsci, lui, ne semble pas partager les regrets de son fils et semble au contraire approuver ce choix éditorial. Et il le justifie même au nom d'un critère d'évaluation plus philologique des œuvres littéraires. On peut lire le texte, c'est le texte 8 de l'exemplier. Tu osservi che il giornale dei pionieri, nel passato, dedicava molto spazio a Tolstoï e poco o quasi nulla a Gorki. Adesso che Gorki è morto e si sente il dolore della sua perdita, ciò può apparire una cosa non giusta. Ma bisogna giudicare con spirito critico in ogni momento. E allora non bisogna dimenticare che Tolstoi è stato uno scrittore mondiale, uno dei scrittori di ogni paese che ha raggiunto la maggiore perfezione nell'arte e ha suscitato e suscita torrenti di emozioni dappertutto. Anche in traduzioni pessime, anche in uomini e donne che sono abbrutiti dalla fatica e hanno una cultura elementare. Tolstoi è stato davvero un portatore di civiltà e di bellezza e nel mondo contemporaneo ancora nessuno lo ha eguagliato. Per trovargli compagnia occorre pensare a Omero, a Escillo, a Dante, a Shakespeare, a Goethe, a Cervantes e altri pochissimi. Donc cette évaluation ne laisse pas de doute sur le fait que Tolstoï est pour Gramsci décidément plus national populaire que Gorki. Il est à la fois portatore de civiltà et di bellezza, porteur de civilisation et de beauté. On a là une illustration de ce qu'on avait développé au début, le concept de narodnost, donc cet esprit russe, mais qui ne s'arrête pas aux frontières nationales de la Russie, mais qui peut être porteur qui contient un universel. Donc il ne s'agit pas ce concept ne renvoie pas à un particularisme national, mais peut illustrer ce cosmopolitisme de tipo nuovo, d'un type nouveau que Gramsci souhaite pour l'Italie. Donc cette valeur de la littérature tolstoïenne se tient à sa capacité à être traduite inlassablement. C'est un leitmotiv chez Gramsci, les traductions de Tolstoï, parce que dès très tôt, il se plaint que de nombreuses reprises que la sonate à Kreutzer, par exemple, soit très mal traduite, qu'il en reparle dans les cahiers. C'est vraiment une chose qui le préoccupe dans ses lettres. Mais c'est pas grave, même in traduzione di pessime, l'œuvre se diffuse. Le fait qu'elle soit importée dans le monde entier, là on peut repenser aux l'article que je vous avais évoqué de Romain Rolland sur Tolstoï et l'Asie, Tolstoï et Gandhi. Et, Et puis cette capacité à être traduite, elle n'est pas seulement internationale, enfin d'une langue à l'autre, elle est aussi entre les classes. Donc il parle de ces personnes abruties dans la fatigue qui ont une culture élémentaire, donc ces personnes simples, les groupes subalternes, on pourrait dire. Et donc, warming et down, et donc là, entre les genres, enfin, cette diversité de lecteurs est pour lui un signe de son rayonnement national populaire et cosmopolite en un sens nouveau. Et donc, c'est à ce titre que ce n'est pas à Gorki et au réalisme socialiste, mais à Tolstoï que revient pour Gramsci le dernier mot.